Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast numéro 1 mondial des podcasts jeux vidéo. Hein. On est premier, premier mondial partout.
Sur Steam.
On est premier sur Steam, on est premier sur l'Epic Game Store, on est premier partout. Aux États-Unis en rayon, vous avez les compiles, les meilleurs moments de la Belle Gamer en cassette. En cassette et CD. C'est incroyable. Inimaginable. C'est l'épisode 317, messieurs, dames. Nous sommes le lundi 18 mars 2024. Asa, ça a marché.
Ah oui,
j'ai... Ça a marché. La semaine dernière, je fais une blague. Je dis, oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Patreon, donc on va en désigner. Stéphane, c'est à ton tour. Et ça a marché. Donc, on remercie Stéphane d'avoir rejoint les Patreons cette semaine. Donc, Stéphane de l'épisode 316, des bisous. Merci à toi de nous soutenir.
Merci beaucoup.
Cette semaine, Mathieu, c'est ton tour. Let's go.
Allez Mathieu, fais péter le Patreon.
Patreon.com/labelle-et-le-gamer. Avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici, ma chère Asa et moi-même Ben, on est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où on peut trouver des podcasts. On stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com/labelle-et-gamer, comme on vient de le dire à l'instant. Tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aller les chercher et cliquer partout. C'est merveilleux. Ça vous rendra heureux pendant au moins 5 minutes.
C'est déjà pas mal.
C'est mieux que rien.
Mais parce que tu m'as dit qu'on avait eu aussi un commentaire gentil sur Apple Podcast.
Voilà, exactement. Alors, on vous voit les Apple Podcasts, les commentaires 5 étoiles. Merci. Merci beaucoup. Il y en a eu récemment. Donc, ça nous fait très plaisir. On se demandait si on allait les lire en direct. Ça fait un petit peu.
Non, si, ça va. Hein.
Ça fait un peu trop.
Auto-congratulatoire. Ouais, c'est vrai.
On va dire ça.
Merci pour les commentaires.
Mais merci.
5 étoiles.
Merci à tous.
Mais c'est qui a fait un commentaire 5 étoiles qu'on remercie quand même. On n'est pas obligé de lire le commentaire, mais on peut remercier
Je vais voir, mais je ne suis pas sûr d'être connecté au truc. Attends. /login. Non, c'est. Merci. Merci. Merci, mais c'est chaud d'aller voir là sur la
configuration. Merci, tu te reconnaîtras, on récupérera ton nom pour la semaine prochaine.
Parce que l'ordinateur avec lequel on enregistre l'épisode, si je fais autre chose qu'enregistrer un épisode avec, il explose.
Eh oui, je sais.
Donc c'est très risqué. C'est beaucoup trop de risques. Asa, une grosse semaine là devant nous qui nous attend. Il n'y a pas eu de sorties. Alors, oui et non, il n'y a pas eu des tonnes de sorties cette semaine, il n'y a pas eu des tonnes d'actu. Mais c'est pas grave, comme d'habitude, quand il n'y a pas d'actu, on va se tourner vers les rumeurs les plus incroyables.
La Switch 2.
Eh ben non.
La PS5 Pro.
Yes!
Yes!
Yes! Yes! Ouais, non, c'est y a que ça.
Et Julien Chaise, il a fait combien de vidéos sur ça?
Balatro. ça se passe bien.
Il en a fait sur Balatro des
J'ai
vidéos.
J'ai joué à Balatro toute la semaine. Asa, les jeux auxquels on a joué cette semaine, première.
Ah non, pardon, il joue pas aux jeux vidéo, Julien Chaise, il fait juste des vidéos.
Il est
des
trop occupé
sur...
à faire des vidéos. Balatro. Non, on va pas mais parler ouf. De Balatro. Ouais, j'ai joué à Balatro toute la semaine.
Mais c'est nul.
Ouais, mais mais pour des raisons professionnelles dans lesquelles on ne rentrera pas, j'étais dans un hôtel pourri toute la semaine avec mon Steam Deck et uniquement Balatro installé dessus.
Mais pourquoi c'est un Steam Deck, il y a 50 jeux dessus. Pourquoi t'as insisté sur Balatro?
Parce que, en fait, si tu veux, le Steam Deck, je t'explique la vraie raison. En vérité, j'ai plein de jeux sur mon Steam Deck, j'avais préparé plein de trucs. J'avais préparé Stardew Valley en étant persuadé que le patch y tombait cette semaine, mais je me suis planté ça la semaine prochaine. C'est pas grave, on en reparlera.
D'accord.
Le Steam Deck, il marche comme un petit peu comme les consoles modernes, c'est-à-dire qu'il met les jeux en suspens.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que quand je prends mon Steam Deck quand même, et que je l'allume, pouf, Balatro. Bon, d'accord, je vais jouer Balatro.
Ah, voilà. C'est pour ça.
Il te met pas au menu.
Ah bah oui.
Oui, choisis ton jeu. Non, s'il te met Balatro dans la gueule, c'est parti, menu, c'est parti.
Et là, tu peux pas résister.
Et là, allez, j'en fais une petite.
Mais à chaque fois que tu fais une partie de Balatro, tu finis le jeu, c'est nul.
Alors j'ai terminé plein de fois à différents niveaux de difficulté.
Je
suis très très fier de moi et très satisfait de mes conneries. Non, Balatro, c'est bien. On en a parlé la semaine dernière. On va pas en parler plus. J'ai pas grand chose de plus à dire. L'actu, c'est que le développeur, puisqu'il est tout seul, hein, le bonhomme de Balatro, a dit qu'il allait faire une version pour téléphone portable.
Ah, c'est pas déjà le cas ?
Non, non. Pour l'instant, c'est disponible sur PC, sur Switch, je crois. Sur Play, peut-être ? Pas sûr.
On me demande pas.
Il y a une version. Version pour mobile qui va arriver très bientôt. Bah, le temps qu'il la fasse, quand même, il est tout seul, le pauvre. Hein, donc
mais c'est pas la même chose. Enfin, tu peux pas faire une version d'un jeu à la fois mobile et PC ?
Non, c'est pas aussi simple que ça.
C'est pas aussi simple que ça.
Non, non, non.
Même sur des jeux comme ça.
Ça, il y a un peu de travail quand même. Il y a un peu de travail. Bah, ne serait-ce que la présentation, voilà, on n'est pas sur le même type d'écran, on n'est pas sur les mêmes résolutions, l'interface, le touche, toucher les machins. Les... Non, il y a du boulot quand même. Il faut adapter. C'est une adaptation. Non, le jeu auquel... Alors, un petit peu de retard, on a passé pas mal de temps sur Final Fantasy VII Rebirth cette semaine. On essaye, avec Asa, on essaye de faire les choses dans l'ordre, parce que commencer 50 jeux, c'est compliqué. Il y a beaucoup de jeux très très longs cette année.
On a commencé 50 jeux quand même.
On a commencé 50 jeux. Non, mais on a... Assez propre cette année. On a fini Persona 3 Reload.
Tu veux qu'on reprenne la liste de tout le backlog?
Non, Asa, nous sommes des gens positifs, on se concentre sur la liste.
Ah, on est positif.
Oui, on se concentre sur la liste de nos succès et on laisse derrière nous nos échecs.
Ah, c'est comme ça que ça marche.
Exactement. Tourner vers l'horizon, tourner. Le poète Walt Whitman disait que en étant tourné vers le soleil, tu t'assures que les ombres soient toujours derrière toi.
C'est vrai.
Et voilà. Donc non, les jeux qu'on n'a pas finis, on va pas faire la liste. Les jeux, non, on a fini Persona.
Les jeux qu'on n'a pas finis n'existent plus.
Reload, on a fini Yakuza.
Oui.
Like a Dragon,
Infinite Wealth.
Donc déjà, c'était des gros morceaux.
C'est pas mal, déjà.
Gros morceau suivant, donc Final Fantasy VII Rebirth. Alors, pour vous
après, il y a Unicorn Overlord, normalement.
Unicorn Overlord est quelque part dans la liste. Bizarrement, c'est pas le plus gros de la liste. Et il y en a d'autres qui arrivent cette semaine. On va en parler tout à l'heure dans les sorties, mais c'est pas fini. Ouais. Pour vous dire à quel point FF7 Rebirth, c'est un gros morceau. Pour ceux qui ont un petit peu joué, on a un petit peu avancé. On est arrivé à Junon, qui est grosso modo la deuxième grosse zone, après avoir fait tout ce qu'il y avait à faire dans la première. Donc, on a passé pas mal de temps, on a passé un peu plus d'une dizaine d'heures dans la première zone, et quand on est arrivé dans la deuxième zone, Asa, elle demande, et du coup, des grosses zones comme ça, il y en a combien ? Il y en a trois ? Non, il y en a beaucoup plus que ça.
Après, comme je disais, c'est pas non plus la carte à la Ubisoft, hein, c'est plutôt espacé, les trucs.
Oui, là. Voilà, c'est ça, c'est assez digeste. Hein, c'est pas aussi dense que ce qu'on pourrait voir. Non, FF7 Rebirth, c'est bien parce que c'est à mi-chemin. Les deux aspects du jeu sont, c'est ce que je disais hier, c'est deux trucs que je recherche en ce moment. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'ambiance, l'histoire, l'univers de Final Fantasy VII, que j'apprécie beaucoup, je suis content de retrouver ces personnages, et la réalisation, la mise en scène est vraiment exceptionnel dans celui-là, donc c'est très très cool. Et à côté, c'est un jeu de map à la con,
voilà.
Avec une map où tu éteins ton cerveau, tu vas de point en point dans la map, tu coches
ça,
des trucs,
c'est pas mal, ouais.
Et tu remplis une checklist jusqu'à ce que la zone soit complètement nettoyée. Et c'est très con.
Ça, c'est bien pour le cerveau. Enfin, pour certains cerveaux. Comme
alors, désolé, on va pas se mentir, c'est très nul, mais c'est très bien. Moi, ça me va très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Non, voilà, c'est. Ce jeu-là, Rebirth, ils l'ont fait en. Alors, pas open world, mais semi-open world. Hein. C'est des successions de grandes zones ouvertes. Et à chaque fois, tu as littéralement des tours à la Ubisoft. Hein. Tu vas à la tour, tu l'actives, et pouf, ça fait un rayon autour de la tour où ça va révéler, alors pas 2800 icônes comme sur un Far Cry, mais quelques activités. Mmh. Alors, c'est des activités qui se répètent.
Il faut tuer des monstres, il faut... Enfin, voilà, après, c'est des combats, hein, mais les combats sont intéressants, donc...
Non, en densité et en variété de trucs à faire, je le mets à un niveau d'un Ghost of Tsushima, par exemple. Mmh. Où tu avais, je vais faire mon haïku, là, je vais aller suivre mon renard, là, je vais faire le truc, tu vois. Mmh. Ça m'a rappelé un petit peu de ça. Aussi, dans la façon dont c'est présenté, parfois, tu as des hiboux qu'il faut suivre.
C'est vrai.
Ce genre de choses, ça rappelle un petit peu de ça.
Je trouvais ça bien. Hein.
Ouais. Non, c'est bien.
Ça va, quoi.
C'est bien. Il y a des objectifs qui sont un petit peu plus complexes que les autres. Hein. Tu as des... Tu as des chasses d'animaux rares où tu vas te battre contre des ennemis avec des objectifs secondaires à cocher. Mmh. Voilà, je veux dire, alors, il faut tuer l'ennemi, mais il faut aussi le tuer. La plupart du temps, il te dit de le tuer dans le temps imparti, en exploitant ses faiblesses, sans se faire empoisonner. Voilà, selon l'adversaire, c'est des objectifs différents. Donc, du coup, c'est des opportunités de bien jouer, d'essayer de réfléchir un petit peu au combat. Mmh.
Parce oui, il te force quand même à bien jouer. Ouais, c'est un jeu qui te force à bien jouer.
Sur les boss. Alors attention. Sur les boss et sur les combats importants, voilà, le jeu te force à bien jouer.
C'est ça.
Et c'est un petit peu la dualité de FF7 Rebirth. Tu as des combats qui servent à rien. Mm-hmm. Vraiment, contre des monstres que tu vas rencontrer dans la nature, les combats sont trop faciles, trop courts. Et en fait, il y a des tonnes de mécaniques de combats qui sont très intéressantes dans Rebirth, mais qui mettent du temps à se mettre en marche, tu vois. Les attaques synchronisées, qui sont des attaques avec deux personnages qui vont faire un truc, un combo ensemble, ça nécessite une petite barre particulière à monter avec chacun des personnages. Les invocations, c'est cool, mais il faut faire monter la barre. Les transcendances, c'est génial, mais il faut que la barre de transcendance, elle monte. Même tes attaques normales, il faut que tes jauges d'ATB, elles montent. Bref, t'as des tonnes de trucs différents à faire monter en parallèle.
Ouais, mais t'as aussi le système des entraînements de combat de Chadley, là. Mm-hmm. Là aussi, t'as plein de combats qui te permettent quand même d'exploiter
des trucs, ouais.
De bien comprendre, en fait, avant de te retrouver sur un boss où il faut que tu le fasses et t'es dans l'histoire et t'as intérêt à le passer, quoi.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es sur un gros combat, c'est des beaux combats. Mmh, tu vas faire des attaques synchronisées, tu vas invoquer Titan ou Shiva ou des machins comme ça.
C'est ça.
Tu vas faire des combos, tu vas exploiter les faiblesses, puis tu vas le mettre en état de choc, tu vas pouvoir faire plein de choses très intéressantes. Mais ça, c'est un truc qui met du temps à se mettre en place. Comme toutes ces multiples barres que tu vas exploiter, reset et reviennent à zéro d'un combat à l'autre.
Ah, au début,
sur des combats courts, tu vas jamais faire ça. Tu vas juste bourriner et tu as le temps de charger aucune barre. Tu vas jamais faire de transcendance, de machin, de trucs comme ça. Non, c'est...
Non, mais après, c'est normal. Hein. C'est
les mecs, ils sont morts avant même que tu aies fait quoi que ce soit. Donc, y a des combats qui sont un petit peu répétitifs, un petit peu pénibles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont triviaux et parce que t'as pas le temps de jouer à Final Fantasy VII, tu vois.
Mais après, moi, je trouve quand même que l'environnement, il est correct, quoi. Il n'y a pas des monstres toutes les 5 secondes.
Non, ça va. C'est pas dense. Et si t'as pas envie de te battre, tu te mets à d'autres chocobos, tu peux esquiver les ennemis facilement.
Voilà, moi, ça me... Alors après, je sais pas, peut-être que toi, tu y as plus joué que moi, hein, vu que t'as ratissé toute la zone pendant la nuit, pendant que je dormais. Donc...
Mais oui, c'est ça qui s'est passé.
Je suis arrivé ce matin, il m'a dit « Ah, regarde, j'ai tout fait !» Quoi ? Donc voilà... Je sais pas, je trouve ça plutôt correct en densité de combat. Ouais. Oui, il y a des petits combats, ok, hein, mais bon, ça te permet de faire ton Pokédex, hein, avec tes ennemis, l'analyse des ennemis, les machins, trucs, d'explorer un peu la région sans trop se prendre le chou sur les combats, pour le coup. Et puis après, quand t'as envie de faire des combats un peu plus... Voilà, t'as tout le truc de Chadley, et comme tu dis, tu as des quêtes secondaires avec des monstres un peu plus importants.
Exactement.
Moi, je trouve que c'est bien dosé, de ce que j'ai vu pour l'instant.
Et les activités vont se nourrir l'une l'autre. Par exemple, quand tu fais des recherches sur les puits de vie, de machin, je ne sais plus comment ils appellent ça.
Je
ne
sais moi non plus.
L'essence vitale de la planète. Ça te permet de faire des recherches sur la région qui vont te permettre de découvrir d'autres choses. Donc, c'est plein de mécaniques différentes qui s'alimentent l'une l'autre. Voilà, là, tu vas faire une quête secondaire, mais c'est une quête secondaire qui va te demander de jouer à Queen's Blood, le jeu de cartes du truc.
Oh putain, ça, on a galéré.
Il y a un combat où on a galéré. Après, j'en ai fait d'autres. Ça s'est beaucoup mieux passé. Mais il y a un combat, bizarrement.
Il y a un combat, on a galéré, on s'est disputé et tout. Enfin, en plus, nous, quand on galère sur les jeux vidéo, ça finit toujours en scène de ménage, quoi.
Ouais, non. Les scènes de ménage les plus violentes qu'on a, c'est généralement parce qu'on n'est pas d'accord sur la stratégie.
Exactement.
Mais putain, pourquoi t'as joué le chocobo là alors que t'aurais pu mettre le cactus en bas à droite ?
Mais c'est trop ça, quoi.
Non, mais voilà, c'est...
Bah, bon, c'est bien.
On a fini par passer ce combat.
Mieux vaut ça.
Et notre relation a survécu. Miraculeusement. Et j'en ai fait d'autres entre temps. J'ai même chopé une carte rare. Il y a une quête qui te fait choper une carte rare. C'est cool, je suis content. Non, Queen's Blood, c'est marrant. Les activités sont marrantes. Les combats peuvent, quand ils font des efforts, être très intéressants. J'ai pas les personnages, alors tu fais ton groupe. Hein, c'est un groupe de 3 parmi les 5 qui sont disponibles au début. Cloud, Tifa, Iris, Barrett et Red 13. Chaque personnage se joue complètement différemment. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres.
Ah, clairement, Aerys, elle sert à rien.
Voilà, le problème, c'est que... Non, Aerys, j'ai dû... Alors, peut-être que c'est moi qui la joue mal, ou je l'exploite pas, ou il y a des combos à faire que j'ai pas encore... qui vont se révéler, ou que j'ai pas encore compris, mais là, j'arrive pas à utiliser Aerys efficacement, hein, je suis désolé pour elle, rien contre elle, personnellement.
Et Red 13, j'accroche pas non plus.
Red 13, ça va, Red 13, c'est pas le pire, Barrett, il est très efficace,
non,
il
mais
marche
Barrett
très
et Tifa, tu mets Barrett et Tifa, qu'est-ce que tu vas t'emmerder, quoi.
Tifa, elle est magique. Voilà, et Cloud, tu peux pas le virer, donc... Bon,
Cloud, tu peux pas.
Tu te frappes, Cloud.
Voilà, quoi.
C'est comme ça. Non, écoute, très, très, très satisfait
ouais,
de ce FF7 Rebirth. Je sais pas si j'aurai la patience de faire toutes les cartes au fur et à mesure.
Mais t'as intérêt, tu t'es cru.
Ouais. Ah, ok, je vais me faire engueuler si je
non,
fais
mais
pas.
Attends.
Donc là, on est arrivé sur la deuxième, sur la deuxième région, sur Junon.
Non, et ouais, mais si tu les fais pas au fur et à mesure,
non,
ça va
ouais.
être encore pire, quoi.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, voilà, nouvelle région, donc les nouvelles tours pour révéler la nouvelle carte. Et bon, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Le seul truc qui m'a un peu frustré, et c'est un truc que j'avais jamais vu ça dans Like a Dragon, ils ont fait ça, c'était très cool, c'est le brouillard de guerre sur la map.
Oui.
Moi, j'aime bien quand il n'y a plus de brouillard de guerre, quand j'ai tout révélé.
Bien sûr, ouais.
Mais là, c'est vraiment ces brouillards de guerre à l'ancienne, c'est-à-dire que ça révèle strictement aux endroits où tu as été. Donc du coup, moi, je me retrouve à essayer de longer les bords, de grimper sur les cailloux pour vraiment être sûr de tout effacer sur la carte pour qu'il n'y ait plus de brouillard du tout.
Bah oui.
Mais si tu ne le fais pas proprement ou si tu as des endroits où c'est trop escarpé et tu ne peux pas marcher, il va te rester des petits patchs de brouillard de guerre un petit peu partout que tu ne peux pas
effacer. C'est horrible.
Et, et ça te fait une carte dégueulasse. Like a Dragon, ils ont fait un truc que je n'avais jamais vu avant et c'est... On essayait de faire ça, pareil, parce que pareil, ça révélait les endroits où tu as été, donc voilà, on se retrouvait à longer les bâtiments pour bien effacer les trucs. Et au bout d'un moment, le jeu disait, non mais c'est bon, t'as exploré suffisamment d'Hawaï, on révèle tout.
On révèle tout, ouais.
Et ça, c'était cool.
C'est vrai, j'avais trouvé.
Donc là apparemment, FF7, il fait pas ça.
Bah, tu crois qu'il fait pas ça? C'est pas possible. Ils ont pas fait une carte pour la cacher, quand même.
Non, mais je soupçonne qu'on ait d'autres...
Va voler, un moment.
D'autres modèles de Chocobo. Je sais pas si on va voler. Je pense que... Alors, dans FF7, dans l'original, à un moment, tu as un airship, hein, tu as un vaisseau. Mais ouais. Je ne crois. Alors, j'en sais rien parce que j'ai quand même esquivé un peu jusque-là des spoilers de Rebirth, mais je pense pas que ce vaisseau soit déjà disponible dans Rebirth. Je pense qu'ils se gardent ça pour
le troisième jeu.
S'ils le font pour le troisième volet, ouais, tout à fait.
Bah, je sais pas, on verra. Mais bon, je suis pas sûr que laisser une carte avec du brouillard, ce soit une.
Ouais,
une
on verra.
Idée,
on verra. Mais peut-être qu'il y aura d'autres façons de se déplacer. Non, c'est une réussite, hein, ce Rebirth. Mmh. Deux crans au-dessus du précédent, du remake.
Oui. Ah bah, ils ont fait les fonds, déjà.
Remake, si tu veux... Remake était très basique, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi cette ambiance graphique, vraiment de reconstituer Midgar, les bidonvilles, les plaques supérieures,
c'était super linéaire.
Mais c'était très linéaire, et quand c'était pas linéaire, quand ils essayaient de te filer des quêtes dans des petits pôles que tu arrivais dans certains villages, dans certains trucs,
c'était
assez nul. Hein. C'était pas terrible, c'était rempli de trucs un petit peu filler pour te faire perdre de temps parce qu'ils avaient besoin que le jeu dure un petit peu.
C'est ça.
Là, c'est pas le cas. Là, c'est un vrai jeu vidéo, c'est un vrai RPG japonais à la moderne, hein, vraiment avec des qualités modernes. Et ça se ressent et c'est cool. Après, voilà, on va en parler maintenant, on va pas en parler dans les news, mais. Le problème qu'a fait Final Fantasy VII Rebirth, visiblement, c'est qu'ils ont un petit peu de mal à le vendre.
Ouais. Alors, on a discuté des théories hier.
Ouais. En fait, alors ce qui se passe, c'est que FF7 Rebirth, les ventes... Il n'y a pas de chiffre officiel. Hein. Square Enix n'a pas communiqué dessus. Mm-hmm. Alors que d'habitude, ils communiquent. Ils disent déjà 1 million de machin, déjà 5 millions d'exemplaires.
Ouais, donc
non, là,
ça veut dire que...
C'est silence radio sur les ventes de FF7 Rebirth. Et donc, du coup, on est obligé de se rabattre sur les données qu'on a. Et les données qu'on a, ça va être des chiffres de vente au Japon. Qui sont extrêmement précis habituellement, mais qui concernent uniquement les exemplaires physiques.
Ah, donc, ah bah, tu vois, oui.
Alors, c'est pour ça, on va pas avoir... Mais on connaît les proportions. Quand on a le nombre de ventes physiques, on se donne une idée à plus ou moins 10-15% de combien ils en ont vendu en numérique, et voilà, les proportions. Mais les ventes de Final Fantasy VII Rebirth sont décevantes.
Ouais.
La franchise Final Fantasy est en chute libre avec Remake. Remake qui avait marché, mais c'était pas non plus des chiffres incroyables pour la PS4. C'était pas à la hauteur des exclusivités Sony habituelles. C'était juste un jeu qui avait très bien marché. Final Fantasy XVI, c'est beaucoup moins bien vendu dans ses premières semaines et par la suite.
Mais il s'était bien vendu quand même, FF16.
FF16, oui, mais moins que Remake.
D'accord.
Et Final Fantasy VII Rebirth, jusque-là, semble moins se vendre que 16.
Ouais.
Hein, donc on est vraiment une trajectoire qui descend. Alors, il y a plein de façons d'expliquer ce phénomène. Hein. Déjà, tu peux pas vraiment comparer FF7 Remake à FF7 Rebirth. Pourquoi ? Remake, c'est un jeu PS4. Rebirth, c'est un jeu PS5.
Mm-hmm.
PS4, en fin de vie, il y avait beaucoup plus de consoles sur le marché que PS5, aujourd'hui, en milieu de vie.
C'est sûr.
Hein, donc, forcément, tu as moins de clients.
Mm-hmm.
Ça fait partie de ces jeux qui vont être maintenant, ils sont dans le catalogue, ils vont continuer à se vendre sur le reste de la vie de la PS5. Mmh. Les gens, quand ils vont acheter une PS5 tardivement, ils font « Bon, bah alors qu'est-ce que j'ai raté ? Ah, FF7 Rebirth, peut-être que je vais prendre celui-là. Mmh. » Hein ? Les gens attendent peut-être aussi des réductions de prix parce que oui, 80€, c'est cher. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bons jeux vidéo qui sont sortis ces derniers mois. Ressortir 80€ encore pour un jeu... C'est parfois quelque chose qui commence à peser sur les budgets, surtout quand on sait que c'est des jeux qui arrivent en solde, qui arrivent en promo.
Relativement rapidement.
Un remake est arrivé sur le PS Plus gratuitement assez vite. Hein, donc peut-être que les gens attendent ça.
Ouais, moi, c'est ça la théorie que j'avais. C'est que là, coup sur coup, on a eu Persona 3 qui a fait un carton, Yakuza 8 qui a fait un carton. Mmh. Donc les gens déjà à mon avis ils prennent le temps de finir ces deux jeux là qui sont énormes en termes de temps et donc du coup FF7 Rebirth il sort à un moment où quand même les gens sont déjà occupés sur autre chose et donc du coup ils se disent c'est pas la peine que j'achète maintenant parce que de toute façon maintenant je suis en train de jouer à autre chose donc autant attendre un peu, le prix va baisser.
Surtout
et ça va être bénef,
c'est le jeu du milieu tu vois
En plus voilà c'est une trilogie.
Donc on n'est pas pressé de toute façon.
Voilà,
c'est pas
t'es
la
pas
fin.
Pressé, t'attends le troisième de toute façon, donc tu pourras rattraper un peu plus tard. Voilà, c'est pas le jeu one shot comme Persona 3 ou Yakuza 8 où tu te dis bon si je le rate, où t'as vraiment envie de le faire là t'es dans un truc où voilà comme tu dis c'est le jeu du milieu de la trilogie. Ma foi.
Voilà, et donc c'est le jeu du milieu, et l'autre facteur aussi, c'est que tu vas t'adresser à ceux qui ont fini FF7 Remake.
En plus, oui.
Parce que c'est une suite directe, malgré ce que va dire Square Enix,
c'est
déconseillé, c'est vraiment un jeu qui est déconseillé aux gens qui n'ont pas fait et terminé et apprécié Remake. Mm. Donc voilà, tu fais...
Et forcément, ça réduit. Hein.
C'est un entonnoir. Tu commences à additionner des filtres et des filtres et des filtres de gens à qui tu vas parler pour vendre ton jeu.
C'est ça.
Voilà. Après, on n'est pas sur des chiffres, on n'est pas sur un bide, on n'est pas sur des chiffres catastrophiques. On est sur une trajectoire descendante d'une franchise qui partait très haut.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas non plus la catastrophe. On n'est pas en train de se dire, oulala, c'est fini, Final Fantasy, c'était le dernier, ils feront jamais le troisième.
Non, pas du tout.
Ça fonctionne, mais peut-être que c'est des résultats un petit peu décevants pour Square Enix, effectivement. Mais pas mérité, parce que c'est un super jeu.
Ouais, mais bon, après, ça va peut-être se rattraper, justement. Il y a peut-être eu aussi de... avec tout ce qui rentre en compte là-dedans, encore avec tous les autres RPG, etc., peut-être que FF16 a refroidi pas mal de gens aussi, où ils se sont dit, on va peut-être attendre un petit peu avant de se jeter sur le prochain Final Fantasy, quoi. Donc,
Complètement. Voilà, on va passer à l'actu, Aza. Quoique, on pourrait... pourrait prendre 5 minutes pour un petit mot pour comment ça s'appelle, Pacific Drive.
Ouais.
On a passé un petit peu de temps aussi sur Pacific Drive cette semaine.
Aussi, oui.
On va pas passer des heures dessus parce que pas énormément de nouvelles choses à dire, mais ça reste un jeu qui mécaniquement marche bien. Hein. Mmh. C'est mécaniquement, c'est pas un jeu de mots parce que tu t'occupes de ta voiture, mais quand même. Ça reste un jeu de temps en temps. Voilà, je le ressors pour faire un run, progresser un petit peu dans l'histoire. L'ambiance est vraiment toujours aussi réussie. C'est cool. C'est un jeu qui est vraiment...
C'est pas mal, ouais.
Vraiment intéressant.
Ouais.
Il fait les choses un petit peu différemment. Ouais. Et je trouve ça vraiment bien, vraiment réussi. Je sais qu'il y avait un truc que je voulais dire sur Pacific Drive et je ne l'ai pas noté. ça va peut-être me revenir au milieu des news, je vais vous faire « Ah, au fait !»
Ouais, mais sûrement.
Allez, on passe à l'actu. On passe à l'actu. On a une concrétisation de ce qu'on avait dit il y a deux semaines environ. On avait parlé de Saber Interactive qui devient indépendant.
Oui.
Qui a racheté son indépendance à Embracer. Mm-hmm. Ça y est, c'est fait, c'est effectif.
Ok. Hein,
depuis cette semaine. Donc on a vraiment les tenants et aboutissants de cette histoire. Donc Saber Interactive a été racheté à Embracer par Beacon Interactive, qui est une nouvelle société fondée par Matthew Karch, qui est le fondateur de Saber Interactive.
D'accord.
Donc c'est le fondateur de Saber Interactive qui s'auto-rachète, quoi.
Ok.
Donc voilà, Saber Interactive avait été acheté par Embracer il y a quelques années maintenant, en 2020 ou 2021, il n'y a pas si longtemps, mm-hmm. Pour 550 millions de dollars. Là, le rachat, quand on en a parlé, quand il y avait la rumeur, la rumeur disait 500 millions. Le chiffre définitif est de 247 millions.
Ah oui. Ah, c'est pas pareil, ouais.
C'est pas pareil.
Ah, ils l'ont racheté moitié prix, quoi.
Ouais, ils l'ont racheté moitié prix, donc c'est pas... Ça n'a pas été une bonne affaire pour l'investisseur. Ça n'a pas l'air d'être des génies du business non plus. Hein.
Ouais, là... là, pour le coup, il y a un problème. Hein.
Alors, voilà. Et rachète une grosse partie de Embracer, pas tout. C'est un petit peu complexe. Parce que Saber
Interactive, il rachète pas tout.
Saber Interactive, c'est énorme. C'est vraiment une usine à gaz vraiment énorme. Donc, Saber rachète et garde avec lui donc, tous les studios qui s'appellent Saber, parce qu'il y a plein de studios Saber. Mm-hmm. Également Nimble Giant, qui est le studio de Star Trek Infinite, Digic, qui est un studio d'animation 3D, Saber Interactive Inc., qui travaille actuellement sur Warhammer 40 000 Space Marines 2 et le remake de Star Wars Knights of the Old Republic, Fracture Byte, qui est plutôt un studio de soutien, Sunsbox Strategies, qui est leur agence de relations publiques, Mad Head Games, qui avait sorti l'année dernière, rappelle-toi, un jeu d'alien qui s'appelait Scars Above.
Oui.
Où on explorait une planète extraterrestre. Sleepgate, qui est développeur de Kingpin Reloaded et de Graven. New World Interactive, qui n'est pas du tout le développeur de New World. Développe Insurgency, Day of Infamy et Insurgency Sandstorm. 3D Realms, ça c'est un développeur assez légendaire. Hein, c'est Iron Fury récemment, mais c'était donc Duke Nukem dans les années 90. Donc tout ça passe chez Saber Interactive. Mmh. Ce qui reste chez Embracer, c'est 34 Big Things, un développeur de Redout, Shiver, qui est un studio de support, Snapshot, un développeur de Phoenix Point et Chaos Reborn, Aspyr, un développeur des remasters de Tomb Raider 1 à 3, là, sorti le mois dernier, la compilation Star Wars Battlefront qui est sortie cette semaine, on en parlera, elle marche pas très bien. Tripwire, développeur de Kingfloor. Beamdog, développeur de Midforce. Tuxedo Labs, développeur de Teardown. Demiurge, développeur de Sega Heroes. Et voilà.
Donc ils ont gardé quand même pas mal de trucs.
Hein. C'est pas des très gros studios. Et entre les deux, il y a deux studios assez importants. C'est Foray Games, développeur de Metro.
Ouais.
Et Zen Studio, qui va pas vous parler à vous, mais c'est un gros, gros, gros développeur de simulation de Flipper.
Ok.
Voilà. C'est une référence pour les fans de Flipper, mais c'est. Voilà. Ces deux studios-là ne sont pas encore rachetés, mais ça va l'être. Il y a une option qui est, il y a une option qui est placée, et c'est quelque chose qui va se faire en un second temps.
C'est okay, compliqué. C'est compliqué, ouais.
C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour tous les jeux qui étaient en développement, hein, parce que ça, c'est quand même, du coup, une trentaine de jeux en développement qui changent de main. Mm-hmm. Les studios repartent avec tous leurs projets.
D'accord.
C'est-à-dire que, par exemple, des choses comme Star Wars, Knights of the Old Republic, le remake, il part avec Saber.
D'accord.
Donc, il récupère tout. Il y aura sans doute des contrats d'édition. Mm-hmm. On va voir pendant une certaine période des jeux développés par Saber, édité par Embracer.
D'accord.
Ça, c'est très possible.
Jusqu'à ce qu'Embracer coule.
Tant que Embracer existe, absolument. et ça concerne surtout les projets qui sont actuellement en développement. Mm-hmm. Mais une fois qu'on sera sur une nouvelle génération de projets, des nouveaux projets qui seront complètement indépendants, là, Saber sera libre d'aller chercher l'éditeur qu'il veut.
D'accord. OK.
Voilà. Donc, cette histoire, ça réduit un petit peu la dette d'Embracer.
Ouais, enfin.
Ça ne va pas changer grand-chose pour Embracer. Mais bon, ils sont obligés de trouver des solutions. Donc là, actuellement, on en est là. Mais voilà, non, sinon, les jeux... là, il y a des gros jeux qui sont en développement chez Saber, qui le sont toujours. Hein, donc, on a parlé de Warhammer 40 000, Space Marines 2. Mm-hmm. Il y avait aussi, rappelle-toi, le truc de John Carpenter. Toxic Commando. Mm. Également révélé au Game Awards l'année dernière, en décembre dernier, c'était un Jurassic Park Survival. Mmh. Qui n'est pas un jeu de survie dans l'univers de Jurassic Park, contrairement à ce que son nom l'indique, mais qui a l'air pas mal.
Mais ça aurait été cool, tu vois.
Mais ça va, un jeu de survie.
Bah, au lieu de faire des jeux de survie pourris avec des Pokémon et des branches de bois, là, fais un jeu de survie dans Jurassic Park. Quoi.
Tu fais un feu de camp, tu te tailles un bâton et
tu vas te faire un T-Rex
qui vient te croquer. Quoi.
Bah, voilà.
Ça existe déjà, ça s'appelle Ark. non, c'est vrai.
Oui, mais avec Jurassic Park. Dans Jurassic Park, quoi.
Dans Jurassic Park, avec la musique. Et,
Je veux dire, non, mais avec des... Parce que Ark, t'as aucun matériel moderne.
Non, mais t'as Vin Diesel.
Non, mais je m'en fous de Vin Diesel. En plus, il y a Vin Diesel sans les voitures, quoi. Excuse-moi, mais...
Alors, je vais pas... Hein, la dernière fois que j'ai dit qu'il n'y avait pas un truc dans un jeu de survie, je me suis fait engueuler. Alors, je sais pas. J'ai pas vu l'arbre de développement.
Tu crois qu'il y a des bagnoles dans
Je sais pas si tu montes niveau 90, est-ce que tu fais une bagnole? Je sais pas.
Hein? Mais ça a l'air d'être un jeu plutôt, entre guillemets, préhistorique.
Je prends des pincettes, j'ai décidé à partir de maintenant d'avoir énormément de respect pour les dégénérés qui jouent au jeu de survie. Et donc, peut-être qu'il y a des voitures.
Oui, mais tu vois, si tu mettais dans Jurassic Park avec justement les petites voitures, les machins, les trucs de parc d'attraction, enfin, pas ouais. De parc d'attraction, mais de parc, voilà quoi. Enfin bref, c'est mignon.
Tobias Sjorgen.
Est-ce que c'est un pédophile?
Je sais pas l'info. Mais comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. A priori, c'est bon. Tobias Sjorgen.
Oui.
Le CEO de Starbreeze n'est plus le CEO de Starbreeze.
Je sais pas ce que c'est Starbreeze.
C'est le développeur de Payday. Récemment, ils ont sorti Payday 3.
Mais ils étaient pas très contents, non, de Payday 3?
Et c'est pour ça qu'il s'est fait virer.
Ceci explique cela.
Ceci explique cela. Non, Payday 3, la sortie de Payday 3 n'a pas été un franc succès. Hein. Mm. Les gens avaient plutôt tendance à dire « c'est nul, on retourne jouer à Payday 2 ».
Ouais, ça,
donc, on s'est dit peut-être que c'est un lancement difficile et après ça va se redresser. Pas non. Trop. Hein. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, Payday 2 a actuellement 29 167 joueurs sur Steam. Qui est honorable pour un jeu vieux de 8 ans. Mm. Payday 3 a actuellement 287 joueurs.
Oui, donc non, ça n'a pas pris. Quoi.
Ça a pas, voilà, ça n'a pas pris. Hein. Ça n'a pas pris. Donc voilà, la sentence, c'est ça. Il s'est fait virer par son conseil d'administration.
Ah oui, la classique.
La classique. Hein. Et donc, il n'est plus... voilà. Ils ont décidé que ce n'était pas la bonne personne pour mener les ambitions de... Starbreeze dans le futur. Jürgen Gugner, c'est le nouveau.
Attends.
C'est des Suédois.
Mais c'est pas le même ?
Non, l'autre c'était Tobias Sjorgren.
Ah, pardon.
Bref, il y a un nouveau. Il y a un nouveau, je ne sais pas si ça va changer quelque chose pour PD3. PD3, c'est pas un mauvais jeu, PD3, mais c'est le problème quand tu as des jeux qui marchent bien. Comment tu fais pour passer au suivant ?
C'est compliqué.
Tu te retrouves avec un jeu qui a énormément de contenu et tu dis aux gens « Non, mais passez au nouveau, il n'y a rien dedans, mais ça va venir. » Ça n'a pas marché pour PD3, ça marche, disons, ils ne savent pas comment faire pour Ark, hein, ils essaient de faire un Ark 2, mais c'est compliqué. Toute l'industrie du jeu vidéo a les yeux tournés sur Rockstar. Fait « Ah, comment on va faire GTA 6, là, avec votre GTA Online, avec 12 milliards de joueurs, comment vous allez faire ?»
Ah, c'est impossible.
Il y a plus de choses à faire dans GTA Online que dans la vraie vie.
En même temps, il y a toujours plus de choses à faire dans les jeux vidéo que dans la vraie vie. Non,
mais je veux dire... C'est...
non, mais oui.
Non, mais tu m'as compris.
Non, c'est sûr, avec GTA Online,
c'est une quantité de contenu délirante.
C'est une auto-concurrence, hein. Je ne sais pas comment ils vont faire.
Est-ce qu'ils vont faire un GTA 6 Online ? Est-ce qu'ils vont mettre à jour ? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être compliqué. La transition va être compliquée.
Mais après, GTA 6...
Et si Rockstar ne peut pas y arriver, personne ne peut y arriver, hein.
Non, mais je pense qu'ils vont y arriver, parce que là, le principe, c'est de faire vraiment une histoire solo avec un gros, gros scénario, des gros personnages, et après, ouais, t'intègres le truc à ton GTA Online, et puis voilà. Merci,
Rockstar. Vous pouvez envoyer le chèque.
Vous pouvez envoyer le chèque.
C'est la solution. la solution est là. Non, voilà, après, bon, rien de plus à dire sur PD et sur Starbreeze. Mais voilà, non, quand tu as des jeux, c'est le problème des jeux-services. Les jeux-services en fin de vie, comment tu
passes à la suite ?
Tu embrayes sur la suite et en gardant ton public, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de jeux-services qui sont en fin de vie là et qui commencent à se poser cette question. Actuellement, on a aussi eu, j'ai pas fait la news parce que c'est trop.
Trop douloureux ?
Trop douloureux. Non, mais c'est répétitif, mais c'est bon. Il y a encore des licenciements chez Electronic Arts de nouveau. Cette fois-ci, c'est des licenciements en plus des licenciements qu'on a annoncés il y a.
Oui, à chaque fois, ça rajoute. Il va y avoir 50% de licenciements du personnel finalement.
Donc. Non, là, c'est Respawn qui est visé. Et plus particulièrement, l'équipe de Apex Legends. Qui, encore une fois, est un jeu de service en fin de vie avec des chiffres qui descendent et on ne sait pas sur quoi on va embrayer à la place. C'est un mystère et on n'a pas la solution. Fortnite, ils sont très très haut, Fortnite, mais ils sont aussi sur une pente descendante. Alors ils essayent de se débattre avec des trucs Lego Fortnite et Fortnite Festival, des jeux musicaux et des voitures. Non, ça prend pas. C'est compliqué. Ce pour qui ça marche, c'est Helldivers 2.
Ouais, j'ai toujours pas compris ça.
Helldivers 2, c'est une anomalie en chiffre de vente.
Oui, mais attends, après, c'est récent. Ça va pas durer très longtemps, j'imagine.
Alors, on parle d'Helldivers 2 là, parce que là, selon les analystes de Bloomberg, Helldivers 2 aurait dépassé les 8 millions d'exemplaires vendus.
Ah, quand même, hein.
Ce qui est dingue. Ce qui est complètement dingue. Et l'anomalie de Helldivers 2, c'est que le jeu a une courbe inversée. Tous les jeux vidéo, sans exception, ils vendent le plus d'exemplaires la première semaine.
Ouais.
Et ensuite, ça descend jusqu'à se stabiliser à un truc. Mais le plus gros des ventes, c'est la première semaine. Et tu as une baisse de 50% la deuxième semaine, et ça continue. Et la courbe est la même pour tous les jeux. Même les gros jeux, même les plus gros jeux, même les plus gros cartons, la courbe va descendre. Si c'est des bons jeux, la courbe, elle est plus lisse, elle descend plus lentement. Helldivers 2, c'est une des premières fois qu'on voit ça, c'est une courbe inversée. C'est une courbe qui est partie très bas et qui monte. Et chaque semaine, le jeu vend davantage d'exemplaires que la semaine précédente. C'est une courbe qui monte, et donc on est à 8 millions, et c'est un chiffre qui va augmenter et qui va augmenter de plus en plus vite parce qu'on a une courbe de nombre de jeux vendus qui monte.
Mais ça continue à monter, là ?
Ça continue à monter encore. Non, le jeu...
Bah, d'un côté, c'est assez logique. C'est pas un jeu où tu vas te jeter dessus parce que...
Bah, personne l'a vu venir.
Personne l'a vu venir. Helldivers et puis finalement, il y a de plus en plus de joueurs. Donc les joueurs appellent leurs potes parce que c'est jeu où tu joues avec tes potes.
Exactement.
Donc le pote va l'acheter. Et vu qu'il faut 4 potes, à chaque personne, ça fait 3 potes de plus qui vont l'acheter. Donc du coup, ça monte.
C'est un bouche à oreille assez fou.
Alors que c'est nul, on est d'accord.
Non, c'est vachement bien. Non, c'est vraiment.
Désolé, ça n'a aucun intérêt particulier, cool, quoi. Alors, non, mais alors, ça n'a aucun intérêt particulier par rapport à notre jeu.
Le secret que personne n'a réalisé, mais que je vous dis...
Ouais, mais dis-moi-le, parce que là, j'ai besoin d'une explication alors, perso.
Pour toi, ça ne va jamais te plaire. Ce n'est pas un jeu pour toi.
Non, mais je sais,
c'est pas grave.
J'aimerais bien savoir pourquoi ça peut être un jeu pour les autres.
Il y a quelque chose que les gens n'ont jamais réalisé et qui ne réalisent toujours pas, c'est que Helldivers 1, c'était un super jeu aussi. Mais personne n'y jouait parce que ce n'était pas connu. Helldivers 2, ils construisent là-dessus. Ils ont une base solide avec une excellente ambiance. Ils ont eu un humour et un univers vraiment, vraiment maîtrisé avec ce petit ton. Alors, un peu emprunté à Starship Troopers, on est d'accord.
Mais c'est mignon. Mais je veux dire, ton, c'est pas ce qui fait le jeu, quoi.
Non, mais après, le jeu, tu as un jeu multijoueur à 4 qui est vraiment bien, c'est vraiment intéressant. Ça te fait des situations différentes. Après, ça te fait des combats vraiment intenses. Avec tes potes.
Moi je joue pas assez à ces jeux-là.
Et c'est le genre de jeu. C'est le genre de jeu qui permet de générer des situations qui sont drôles, qui sont fun, qui sont vraiment marrantes. Avec des trucs, par exemple, le Friendly Fire, des trucs comme ça, tu peux blesser tes amis. Les bombardements que tu fais, c'est jamais vraiment très précis. Donc vraiment, il y a des situations à la con tout le temps auxquelles tu dois réagir et c'est fun. Et le développeur. On joue et rajoute des choses là-dessus. On a parlé de la façon dont ils ont rajouté les mecs.
Oui.
Là, en ce moment, il y a des rumeurs autour d'une troisième faction qui devrait arriver, parce qu'actuellement, tu te bats soit contre les insectes, soit contre les cyborgs.
C'est peu.
Non, parce qu'il y a une variété, tu vois. Il y a une variété. De temps en temps, les insectes, ils rajoutent des nouveaux modèles. Et ils font ça, ils font ça de façon assez, assez fine dans l'univers du jeu, tu vois. Parce que tu te retrouves, dans le scénario du jeu, tu te bats pour la protection de la super Terre, pour défendre la démocratie, la liberté et tous les trucs. C'est du second degré parce que tu sais que c'est vraiment les pires en fait.
Oui.
Et tu as, c'est de la propagande, c'est des trucs comme ça. Et dans ton vaisseau, par exemple, dans chaque partie, dans ton vaisseau, tu as un écran géant qui te passe les infos. Et ça change chaque jour, c'est des nouveaux trucs, c'est en temps réel, et ça va traduire l'évolution vraiment de la guerre contre les différents trucs.
D'accord.
Et tu vas avoir des trucs de propagande qui donnent attention aux rumeurs, les insectes, ils ne peuvent pas voler, c'est impossible, des insectes volants, ça n'existe pas, ne croyez pas aux rumeurs, ne cédez pas à la panique, et des trucs comme ça. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que, évidemment, à partir de ce jour-là, les mecs, ils atterrissaient sur les planètes, et d'un coup, il y avait des insectes volants qu'il n'y avait jamais eu avant, tu vois.
D'accord.
Ils font des trucs comme ça, ils font de la propagande, ils font des machins. Là, de temps en temps, t'es en train de te battre tranquillement contre des cyborgs ou contre des trucs, et de temps en temps, il y a des mecs qui se prennent un laser bleu.
D'accord.
De temps en temps, tu vois le mec, il y a des mecs qui font « Ah merde, je suis mort, mais je suis mort de quoi ?» et tout. Et il y a des gens qui avaient des streams, qui enregistraient les trucs, fait « Attends, viens, on revoit les images. » Et t'as un tir de laser bleu qui sort de nulle part, qui a tué le mec. Et on sait pas ce que c'est, il y a rien qui tire des lasers bleus dans le jeu.
Jusqu'à présent,
tu vois. Et donc ils en jouent de ces trucs-là. Ils font des événements dans le jeu, dans l'univers, pour rendre les nouveautés et la progression du jeu intéressante, originale et fun.
Les
joueurs reconnaissent le fun et ça marche sur les joueurs. Ça
revient un peu à ce que fait Fortnite en fait. Et surtout ce que faisait Fortnite au début.
Ouais, mais...
Ce qui faisait la force du truc, en fait.
Ouais, ça apportait de la nouveauté régulièrement. Et la nouveauté, pas n'importe quelle nouveauté, c'est vraiment ça apportait des choses que les joueurs attendent.
Ouais, bien sûr.
Les rééquilibrages qu'ils font, il y a eu des patchs avec des nerfs, des trucs comme ça. Les rééquilibrages sont malins. Il y avait des trucs trop puissants qui ont été rabaissés, rééquilibrés. Mais c'est fait avec finesse, tu vois. Les gens, ils râlent. Alors, ils râlent 5 minutes parce que s'ils étaient habitués à un truc surpuissant et il faut qu'ils se réajustent. Mais le jeu est bien intégré. Pour un jeu aussi d'apparence bourrin, l'équilibrage est extrêmement fin. Il y a tout qui fonctionne et récolte les fruits de ce truc-là. Et c'est cool. C'est cool pour eux. Aza, on avait promis des rumeurs de PlayStation 5.
Oui.
Pro.
Pro, ouais.
Pro, parce que PlayStation 5, c'est pas une rumeur. Et elle est vraiment disponible. Vous pouvez vraiment aller l'acheter. Non, alors on a... On en parle depuis longtemps, hein. Une PlayStation 5 Pro, une révision de la PlayStation 5 actuelle, c'est quelque chose qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année.
Mm-hmm.
En tout cas, d'après pas mal d'insiders, c'est ce qui est prévu, quelque chose qui sortira en toute fin d'année, peut-être repoussé à l'année prochaine, c'est possible, hein. Mais c'est quelque chose qui va arriver avant la PlayStation 6. Pourquoi tout le monde en parle en ce moment? C'est parce qu'il y a eu des fuites assez crédibles sur les spécificités de cette console, sur la puissance de cette console, hein, savoir qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur. Grosso modo, s'il faut résumer un petit peu tout, c'est des performances et une puissance grosso modo 45% supérieure à la PlayStation 5 de base.
D'accord.
Donc c'est bien, c'est pas...
Ta chaise qui fait du bruit, ça me stresse.
Voilà, plus de bruit. Pardon. 45% plus puissant que la PS5, c'est pas fou, mais c'est quand même significatif. Hein, ça va quand même motiver les gens, les fans les plus...
Oui, c'est...
Les plus motivés à...
Ouais, voilà, et puis surtout ceux qui en ont peut-être pas encore, ils vont peut-être passer sur celle-là.
Alors hein, voilà.
Parce qu'on est à combien en prix? On est supérieur ou...
Le prix n'est pas annoncé.
Ah, ben...
Le prix n'est pas annoncé et on pourrait se diriger vers une console plus chère que la console actuelle. Jusqu'à présent, si tu veux, en tout cas jusqu'à présent, à la génération précédente, à la PS4, c'est vrai qu'on était dans un contexte où le prix des composants baissait. Mmh. Donc du coup, c'était logique de faire baisser le prix de ta console. Mmh. Et donc du coup, c'était logique de sortir une console pro au prix... c'était un espèce de reset du prix. Tu vois, on se remettait à 500 pour la nouvelle,
ah ouais,
et l'ancienne, elle baissait. Là, les prix des composants, ils baissent pas. Ils ont plutôt tendance à monter. On a des consoles qui ont, pendant cette génération, monté en prix. Elles étaient sorties à 500, vrai, ouais, elles sont montées à 550, tu vois. Elles vont rester à 500. Là, ils ont sorti la révision de la PS5 qui est restée à ces prix-là. Et on va continuer à avoir ce prix-là. Il est possible qu'une révision, une version pro, se place au-dessus.
Et oui.
Et c'est un petit peu les rumeurs qu'il y a aussi du côté de chez Microsoft. Mmh. Microsoft, a priori, ils vont pas faire de révision de la série X. Mmh. Il y aura pas de série X Pro ou de trucs comme ça.
Ouais.
Là, la révision qui risque de sortir cette année, ça va être la même console avec un redesign, quelques trucs différents, mais ça va être la même chose. Mais il est très possible qu'à la prochaine génération... Tu sais, quand ils t'ont parlé, le plus gros saut générationnel jamais vu, ils en ont parlé quand il y a 2-3 semaines.
Je sais pas, ils disent tellement de conneries que j'écoute plus, moi.
Ils disent beaucoup de conneries, donc c'est vrai que c'est pas évident.
Ouais.
Mais quand ils rassuraient un petit peu les fans, quand tout le monde criait à la panique parce qu'ils commençaient à sortir des jeux sur des plateformes différentes, ils font « Non, on continue à faire du matériel. On a une nouvelle génération qui arrive et cette génération sera le plus gros saut qu'on ait jamais vu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il est tout à fait possible qu'ils reste sur une stratégie des deux consoles comme on a actuellement. Actuellement, il y a la S et la X.
Oui.
Prochaine génération, deux consoles, mais inversée. C'est-à-dire une console qui sort à 500 balles alignée avec la future PS6, c'est la nouvelle génération, et un autre modèle
au-dessus.
Largement au-dessus.
Ah, d'accord.
Et là, effectivement, ça serait la console la plus puissante jamais vue. Ça serait un truc, mais ça serait réservé à des gens qui veulent mettre 800, 900 balles dans leur console, peut-être 1000 balles. Mais parce qu'ils veulent un truc. Ouais, j'en ai marre de ne pas avoir mon ray tracing, j'en ai marre de ne pas avoir mes 60 images par seconde. J'ai un petit peu de sous devant moi, je veux ma grosse console et la payer
pourquoi
cher,
pas,
mais pourquoi
hein,
pas. Ça peut être une autre stratégie, tu
ça
vois.
Ça peut être, ouais, c'est la stratégie inverse qui peut être intéressante. Hein.
Complètement. Donc là, on serait donc sur une console, sur une PS5 Pro qui serait 45% plus puissante que la PS5 de base, avec une amélioration des capacités de ray tracing allant de 2 à 4 fois la vitesse. Selon les cas, ce qui est une bonne chose parce que le ray tracing là des consoles actuelles, alors c'est marqué ray tracing sur la boîte, techniquement ils peuvent en faire, mais si tu actives le ray tracing dans ton jeu, tu passes à 5 images par seconde et c'est fini.
Jouer.
Donc dans la plupart des cas, hein, y a des exceptions. Ces psychopathes ont mis du ray tracing dans Persona 3 Reload, je m'en suis toujours pas remis.
Ah oui, c'est vrai.
Et il reste à 60 images par seconde, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ouais, dans la plupart des cas, le ray tracing...
Bah c'est sûr, il n'y en a pas du ray tracing, donc si tu le mets...
Ah si, il y en a, il y a des reflets.
Oui, mais bon, c'est pas non plus...
Tu peux t'amuser à aller voir ton reflet dans la vitre de la salle de classe. Je ne sais pas pourquoi ils se sont dit on va faire ça, mais il y a quelqu'un qui s'est fait plaisir. Quoi. Une puissance de calcul de 33,5 teraflops.
On ne comprend pas.
C'est beaucoup de flops.
Oui, voilà, c'est ça.
Des tonnes de flops. Hein. Il y a vraiment, c'est une console qui sera pleine de flops jusqu'à ras-bord. Le plus drôle, c'est le PSSR, ça va s'appeler.
C'est quoi ?
C'est le PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling.
Ok.
Ok. Qu'est-ce que c'est ?
C'est quoi ?
C'est l'équivalent. Ça va être un équivalent natif à PlayStation de ce qu'on a sur PC et sur certains trucs qu'on appelle le DLSS ou le FSR pour AMD.
Ouais.
C'est le principe de calculer une image à plus basse résolution et de se servir d'un algorithme d'intelligence artificielle pour extrapoler ce à quoi l'image ressemblerait en 4K et l'afficher en 4K comme ça. C'est plutôt efficace sur PC. Le truc de Nvidia, le DLSS, surtout sur les nouvelles versions, ça marche. Surtout les dernières versions qui ont de la génération d'images, qui vont, par exemple, qui vont calculer 30 images par seconde, et entre chacune de ces images, ils vont intercaler des images intermédiaires pour vraiment avoir quelque chose de fluide. Voilà, c'est des choses qui commencent à faire et qui marchent bien. Donc ça, c'est, on a des rumeurs comme quoi ça sera sur la Switch 2. Évidemment, et là, ça serait donc sur la PS5 Pro, ça permettrait des meilleures performances. Voilà, après le reste, bon, c'est des détails, hein. Support de résolution allant jusqu'à 8K. 8K, on s'en fout, on n'a pas de télé 8K. Personne n'a télé 8K, hein. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Donc ça, c'est pas forcément le plus intéressant, mais voilà, non, bref. Console plus puissante, hein. Y a pas de... Il n'y a pas vraiment de surprise là, et ça devrait arriver. Ce qui est prévu, c'est à la fin de l'année. Maintenant, ce qui ne colle pas, c'est que généralement, quand ils font ça, ils aiment bien coller à une grosse sortie de jeu.
Et oui, voilà, il n'y a pas de jeu là.
Il n'y a pas de jeu. C'est Sony qui l'a avoué. Hein. Ils feront pas, il n'y a pas de gros jeux, de grosses licences Sony qui sortiront cette année.
Ouais, parce que si tu sors ta console comme ça, plus puissante, sans rien à mettre dessus, les gens ne vont pas l'acheter. Hein. Est-ce que tu t'en fous?
C'est ça, voilà. Il faut vendre avec un jeu vitrine, en fait.
Bah forcément, sinon tu vas pas récupérer tes anciens jeux Sony pour les mettre sur la nouvelle. Enfin,
Alors à moins de faire d'une vitrine les jeux déjà sortis, tu vois, par exemple des jeux comme FSS Rebirth pourraient très bien être une vitrine d'une console plus puissante, parce que là, le jeu, techniquement, est à la limite de la PS5. Là, actuellement, sur FSS Rebirth, tu as le choix entre un mode haute résolution, avec une belle image, mais qui saccade un petit peu. Hein, on est à 30 images par seconde, ça pique un petit peu les yeux quand tu es habitué à 60. Ou alors tu passes le jeu en framerate à 60, mais à ce moment-là, l'image devient complètement floue. Les deux solutions ne sont pas idéales.
Oui, mais bon, si tu veux vendre des consoles, tu as intérêt à avoir un nouveau jeu, moi,
Il faut un Uncharted 5, un Last of Us 3,
ben
il faut
oui, parce que
Spider-Man
c'est pas
12.
Avec le FF7 Rebirth qui est sorti 6 mois avant que ça va vendre des consoles. Hein.
On est d'accord. Et le jeu qui n'est... techniquement pas une grosse licence Sony, mais qui pourrait sortir avec une console, parce que c'est la tradition, c'est un nouveau Astro.
Ah oui.
Ça, ils aiment bien sortir un Astro pour accompagner le matériel. Astro, le premier Astro, c'était pour le PSVR. Il y a eu le Astro pour la
PS5. Encore, c'est pas, ça, c'est une démonstration de ton matériel. C'est pas ça qui va faire vendre ta console.
Ouais, mais ce que j'aimerais bien, moi, ce que j'aimerais bien, c'est un vrai jeu Astro. Pas juste un truc, une démo qui dure 2 heures, un vrai jeu Astro.
C'est vrai.
Un truc qui me permettrait de jouer à Astro, un équivalent Mario 3D, mais pour la PlayStation, hein, un vrai jeu de plateforme avec Astro en star, un jeu qui dure 20 heures, 30 heures, consistant, tu vois.
Ouais, ouais.
Pourquoi pas ?
Est-ce que c'est ça qui ferait vendre des consoles ? Je suis pas sûr non plus. Hein.
Ah, ça en vendrait une à moi. Hein.
Oui, d'accord, mais en dehors de toi...
Oui, ben écoute, c'est moi qui suis important. Jeff Keighley confirme que le Summer Game Fest 2024 aura bien lieu.
Bah ouais,
maintenant qu'il n'y a plus de droits, il va bien falloir faire quelque chose. La date est fixée. La conférence, le gros Summer Game Fest, le showcase, ça sera le 7 juin 2024.
Ok.
Voilà. Le temps passe, c'est bientôt.
Je sais.
C'est bientôt. Ça sera.
Je sais que c'est bientôt.
En public, en direct de Los Angeles, le YouTube Theater.
YouTube Theater ?
Ouais, c'est au YouTube Theater.
Genre YouTube, ils ont acheté un théâtre.
Oui.
D'accord.
Tout est cassé. ouais, non, mais oui, non, mais les marques, ils achètent des stades, c'est comme ça. Hein, c'est,
on peut pas acheter un stade, non ?
On a déjà un stade.
Ah, merde.
C'est un stade local.
C'est un tout petit stade.
Amenez votre ballon. Voilà. Donc pas de 3 cette année, ça c'est mort et enterré, c'est définitif, mais ça y est, on a la date du Summer Game Fest. Ça sera un vendredi, le 7 juin, et ça sera heure de chez nous, un petit peu tard, genre 22h ou 23h, ou 21h, je sais pas, j'y connais rien.
On vérifiera. Oui, parce que comme ça change d'heure...
On change d'heure la semaine...
Oh putain, sans déconner, on change d'heure la semaine prochaine.
Non, dans 2 semaines.
Non, oh, fais chier, ça y est, c'est l'été, quoi.
Non, ils ont décidé de te faire plaisir et ils ont décidé de changer d'heure pour ton anniversaire.
Je sais. Je déteste mon anniversaire, c'est le pire moment de l'année.
Star Wars Battlefront Classic Collection ne marche pas très bien.
Mais il faut arrêter de sortir des jeux maintenant. Mais dis-leur, c'est pas le moment.
Mais surtout, surtout s'il n'est pas fini. Attends.
En plus.
Bon, ça, c'est un truc qui a été annoncé très, très récemment dans un Nintendo Direct ou un truc, bref, développé par Aspire. Développé par Aspirateur. Aspirateur, on rappelle, studio de Saber, que même Saber on voulait pas, ils sont partis sans eux.
Oui, parce qu'il n'est pas Saber, du coup, il est chez Embracer.
Ah ben non, il est resté chez Embracer et il y reste. Hein.
Oui, voilà, donc voilà. Saber ne le voulait pas.
Donc développé par Aspire, Star Wars Battlefront Classic Collection, c'est une collection, comme son nom l'a dit, qui regroupe les deux Star Wars Battlefront classiques, pas les nouveaux.
Et du coup ?
Ben, y a Star Wars Battlefront 1 et Star Wars Battlefront 2, c'était des jeux PlayStation 2, ce sont maintenant des jeux modernes, mais les serveurs sont en vrac et il n'y a rien qui marche, donc les gens ne sont pas contents et ils gueulent.
Mais attends, ils ont sorti des jeux, des remasters de PlayStation 2 ?
Ouais.
Mais qui c'est qui va acheter ça ?
Les fans de Star Wars Battlefront classique.
Mais ils sont combien ? 4 ?
Ils sont suffisamment pour planter les serveurs, puisqu'il n'y a rien qui a marché. Non, le bundle est sorti la semaine dernière hein, sur Switch, PC, PlayStation et Xbox. Il contient à la fois Star Wars Battlefront de 2004 et sa suite Star Wars Battlefront 2 sorti en 2005.
Oui, parce que, attends, qu'on soit bien d'accord, c'est juste genre des portages en fait.
Oui, des remasterisés, c'est un petit peu plus joli, mais oui, c'est les jeux classiques. Ouais, c'est les jeux qu'il y avait
à l'époque. C'est un peu remasterisé quand même.
Mais c'est un peu remasterisé quand même, ouais, absolument. C'est modernisé pour les consoles d'aujourd'hui, mais c'est pas des remakes. Voilà, c'est des remasters un petit peu plus jolis, avec une meilleure résolution, un petit peu arrangé. Et c'est censé faire plaisir. Et ça fait plaisir à tous ceux qui étaient fans de ces jeux-là à l'époque. Hein. C'est des jeux qui fonctionnaient bien, forcément, des jeux multijoueurs dans l'univers de Star Wars, un peu cool sur console. Y avait un marché pour ça en 2005, en 2004 et en 2005, il y avait un marché pour ça et ça cartonnait. Et il y a pas mal de gens qui sont nostalgiques de cette époque-là spécifiquement et qui attendaient ces jeux-là, mais le résultat est une déception. Hein. Alors ça va s'arranger, c'est des problèmes de serveur.
Sûrement.
Et j'imagine que le jeu, il était probablement pas complètement mûr, hein, mais ils ont décidé de le sortir quand même. Aspire, ils sont tristes, ils sont déçus et ils sont malheureux d'avoir déçu les fans. Au lancement, nous avons rencontré des erreurs critiques sur notre infrastructure réseau qui a résulté en de très hauts temps de réponse, des problèmes de matchmaking, des crashs et des serveurs qui n'apparaissaient pas dans les listes. Voilà, ils sont en train de travailler sur l'amélioration de la stabilité de leur réseau et ils encouragent les joueurs à continuer à faire des rapports de bugs et de rapporter les erreurs et les comportements inattendus qu'ils rencontrent.
Ouais, en même temps, tes rapports de bugs, tu pouvais les faire avant et pas demander aux joueurs de faire le boulot que tu aurais dû faire toi-même, quoi.
Exactement. bonne nouvelle pour les fans de Prince of Persia The Lost Crown, un des meilleurs jeux de 2024.
Meilleur jeu d'Ubisoft.
Depuis très longtemps. Effectivement, très largement. Ubisoft vous a entendu et du contenu supplémentaire est désormais prévu pour Prince of Persia The Lost Crown, une série de mises à jour gratuites et payantes prévues pour après le lancement du jeu. Ce qui paraît logique vu qu'il est déjà lancé.
Oui.
Avec plein de nouveaux modes, hein, un mode permadeath pour...
Ah, pour les...
Ouais.
Pour les masos.
Ouais. Un mode boss rush hein, qui consiste donc à enchaîner tous les boss d'affilée.
Pareil pour les masos.
Pour les masos. Mais surtout, ce qui est intéressant, alors avec tout le respect que j'ai pour ceux qui s'intéressent au reste, mais un DLC qui prolonge l'histoire.
Oui, voilà, ouais. Ça c'est mieux.
Un vrai DLC avec des nouvelles zones à explorer, des nouveaux trucs et la suite de l'histoire. Voilà, un gros DLC. Le DLC sera une mise à jour payante. Ce qui paraît
normal. Je n'en attendais pas moins, malheureusement.
Non, ouais, malheureusement, mais en même temps, ça paraît normal. Tout le reste, par contre, les nouveaux modes de jeu, les trucs comme ça, ça c'est des mises à jour gratuites qui vont arriver un petit peu. La première mise à jour arrive ce mercredi 20 mars. Et voilà, elles vont être parsemées. L'année va être parsemée de mises à jour jusqu'à la dernière grosse mise à jour en fin d'année. Pour la suite de l'histoire. Donc voilà, c'est cool. Prince of Persia The Lost Crown, il rejoint un peu Final Fantasy VII Rebirth dans la liste des jeux excellents qui ne se vendent pas. Peut-être que ce DLC va permettre de relancer un petit peu le truc, hein. Peut-être qu'il va sortir à un moment qui est un petit peu plus calme en grosse sortie, donc les gens vont être un petit peu plus friands de jeux auxquels ils n'ont pas joué, ils vont se dire « Ah tiens, c'est vrai, j'en avais entendu parler, il paraît que c'est bien ». Ça peut donner une seconde vie au jeu, ça serait une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quelques news rapides pour terminer. On a plein de news, rien de vraiment très, très passionnant. Stig Asmussen, j'ai plein de
noms.
Il
y en a marre des Suédois.
Stig Asmussen, qui est donc le game director de la série Star Wars Jedi, qui a fait donc Star Wars Jedi Fallen Order et Star Wars Jedi Survivor, qui avait quitté Respawn, il ouvre son nouveau studio. C'est un nouveau studio AAA, c'est-à-dire les jeux AAA.
Le mec, il vient d'ouvrir son studio et il dit « J'ai un studio AAA ».
Oui.
C'est comme ça que ça marche ? C'est pas une fois que t'as sorti le jeu que le studio est qualifié de AAA ?
Bah disons que ça reflète tes ambitions. Tu veux faire un gros jeu, tu veux faire un jeu que tu as l'intention de vendre 80€ aux gens.
Ouais.
Voilà, c'est ça un studio AAA. Tu fais pas des petits projets que tu vas vendre à 40 balles, tu fais directement un très gros truc. C'est ce que tu vends aux investisseurs. Tu dis, quand tu récupères des fonds, tu dis voilà, moi j'ai un studio AAA, on va faire un gros jeu. J'ai toujours fait des gros jeux. J'ai fait Star Wars Jedi.
Le business, c'est vraiment du pipeau.
C'est du business.
C'est du pipeau.
Alors,
mais...
jeu AAA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire très gros budget, très gros jeu, mais quand même un cran en dessous de Skull and Bones, hein, qui est quadruple A, on le rappelle. Mais voilà, ça te permet de cibler un petit peu le truc. Voilà, donc nouveau studio AAA qui s'appelle Giant Skull. Alors, c'est pas beau de se moquer, mais...
Grosse tête, ça s'appelle.
Giant Skull, tu vois, je trouvais ça con comme nom de studio, et puis j'ai vu la tête de Stig Asmussen, j'ai fait « Ah oui, Giant Skull, ouais. »
Ah, il a une grosse tête.
Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez voir. Allez voir, quoi. C'est incroyable. Mais enfin, bref. J'irai pas plus loin parce qu'il me fait très peur, hein. Voilà, donc le but du studio c'est de concevoir des univers riches dans lesquels les joueurs vont vouloir se perdre pour les années à venir. J'ai pas envie de me perdre, moi.
Ben, je sais pas, faudrait peut-être un projet concret avant de parler n'importe comment.
Alors, c'est un projet AAA, single player. Non, attends, single player, c'est important de nos jours. Action aventure. Unreal Engine 5.
Ah oui.
Alors ça, c'est les informations qu'ils donnent, parce que quand tu montes un studio comme ça, la première chose que tu fais, c'est recruter des gens. C'est venez, si vous savez faire de l'Unreal Engine 5, nous, on ne sait pas, venez. Et voilà.
Mais du coup, nous, si on monte un studio, on va voir des investisseurs, on leur dit exactement la même chose, AAA, single player, Unreal Engine 5.
Mais seule différence, c'est qu'on n'a pas fait Jedi Survivor avant.
Ah, c'est pour ça qu'ils ne nous donnent pas des sous ?
Et oui, c'est ça. On n'a pas un nom connu dans l'industrie. Alors qu'on a le podcast numéro 1 au monde.
Alors que...
Ça n'a aucun sens. Final Fantasy XVI...
Alors que je suis persuadé que son projet, il est au même stade que le nôtre, quoi.
Ouais, déjà, on a 40% de chances que ça sorte jamais.
Voilà, je veux dire, c'est fou quand même.
Final Fantasy XVI, dans sa version PC, arrive.
16 ?
16. 16.
Mais on la veut pas, la version PC.
Et il a fond quand même. Et tu vas la,
tu vas la bouffer
avec le sourire. Non, non. Alors, ils avaient dit depuis le début que c'était une exclusivité console pour la PlayStation 5, mais qu'une version PC arriverait dans les mois qui suivent. Récemment, dans une interview avec Game Informer, le producteur du jeu, Naoki Yoshida, révèle que la version PC de Final Fantasy XVI est dans ses dernières phases d'optimisation. Donc, ils sont vraiment dans les... Alors, c'est rassurant qu'ils soient plus dans les phases de conception puisque le jeu est déjà sorti. Mais sont dans les...
C'est vrai que c'est pas mal.
C'est mieux d'en être à l'optimisation. Mais ils sont dans les dernières phases d'optimisation. Alors, on se dit... Donc du coup, c'est rapide. Hein. Il fait oui, oui. Alors, il y aura même une version démo pour pouvoir tester si le jeu tourne bien sur votre PC. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc la version PC et cette version démo devraient sortir, si tout va bien, dans les prochains 12 mois.
Ah oui, il reste pas mal d'optimisation.
Donc voilà, visiblement, il y a pas mal d'optimisation à faire.
Mais voilà. Là, par exemple, je comprends pas trop, parce que c'est un jeu qui a clairement pas hyper bien marché, qui a pas été bien reçu par les critiques. Quel est l'intérêt d'investir de l'argent dans une version PC ?
C'est pas énormément d'investissement. C'est une petite équipe qui fait le portage.
C'est pas beaucoup d'investissement ? D'accord, alors ça va.
C'est un équilibre, hein, c'est un équilibre à trouver, mais ouais, Square Enix va faire le calcul que développer une version PC... c'est un investissement qui va être rentabilisé un par les ventes PC et deux par un maintien de réputation auprès d'un public PC à qui tu montres que tu fais attention à lui. Voilà, on vous a promis une version PC, on l'a fait, on respecte nos promesses, soyez pas fâchés.
Après, je sais pas si c'est une démonstration de respect de sortir Final Fantasy XVI.
On va voir, parce que
ils y avaient échappé jusqu'à présent, quoi.
La version PC de FF7 Remake qui était sortie sur l'Epic Game Store à l'origine, niveau respect, on était à zéro. Hein. C'était scandaleux, cette version. Hein. Ça s'est amélioré depuis, mais la version d'origine avec deux options, options graphiques, un ou deux.
De quoi, c'était bien la peine de sortir ça sur PC.
La version PC à la sortie était minable. Hein, donc, mais bon, voilà, parfois ils font aussi de très bonnes versions PC.
Oui, mais le jeu reste de merde.
Le jeu n'a pas plu à tout le monde. Aza, on modère les propos.
non, tu sais que jamais je modérerai les propos. C'est pas drôle.
Le jeu
reste une catastrophe. Je suis désolé.
Le jeu a
Monsieur Yoshida
déçu certains fans, dont Aza.
Je suis désolé, Monsieur Yoshida. C'était de la merde.
Le jeu a déçu certains fans, dont Aza, mais a également ravi de nombreux fans qu'on cherche encore.
ils ont été internés depuis.
Aza.
Oui.
Bonne nouvelle. Non, là, c'est la news que tu attendais, mais
depuis l'année dernière.
Hein,
depuis l'année dernière, ouais, j'attendais ça.
Tu c'est attendais quoi ça. C'est. Alors, reste assise. Ça y est, enfin, au mois de mai.
Ouais.
Il faudra encore un peu de patience, hein, ça. Au mois de mai, enfin, Multiversus revient.
C'est quoi?
C'est le Smash Bros, mais avec Batman et Bugs Bunny. Il revient enfin.
Ah mais oui, parce qu'il l'avait enlevé, c'est ça ?
Qu'est-ce
qui s'était passé, ce truc-là ?
Il était sorti. Alors, résumé, effectivement, hasard.
Résumé des épisodes précédents, parce que
c'est particulièrement savoureux. Ils l'ont sorti l'année dernière, Multiversus. Donc, je rappelle, c'est un clone de Smash, mais avec plein de personnages de licence Warner.
Ouais.
Il était sorti l'année dernière et il avait plutôt fait un carton. À sa sortie, il y avait plein de gens qui jouaient, il y avait un très bon bouche à oreille, c'était plutôt un très bon jeu. Mais ça s'est un petit peu crashé comme un pétard mouillé, parce que le contenu derrière, il ne suivait pas, il devait sortir de nouveaux personnages, ça ne venait
pas.
C'était un petit peu décevant. Et le nombre de joueurs baissait. Et un beau jour, ils ont dit « Ah, au fait, c'était une bêta. La bêta est finie, merci, au revoir. » Et ils ont supprimé le jeu de partout. Jeu qu'ils avaient vendu. Il y a des gens qui ont mis de l'argent dans les Battle Pass, il y a des gens qui ont mis de l'argent dans le jeu, qui avaient acheté des trucs premium, des skins pour Bugs Bunny, je sais pas si ça existe.
Bugs Bunny, mais avec la tenue de Tifa.
Non, bah c'est ça, hein, Bugs Bunny en lapine, c'est un classique. Hein. Voilà, non, des trucs comme ça. Voilà, donc c'était un petit peu décevant pour les gens qui avaient mis des sous dedans.
Mais ils les ont remboursés quand même, ces gens.
Ah bah non.
Non.
Non, tout ce que vous avez acheté, vous le gardez, hein,
et oui,
vous l'aurez quand le jeu reviendra. Hein,
bon, finalement, c'est revenu.
Et il revient.
Bah,
il
voilà.
revient au mois de mai. Alors, ils ont bien bossé sur le jeu. Le jeu est maintenant sur l'Unreal Engine 5. Donc, ils ont fait une mise à jour de moteur. Le jeu est plus beau que jamais, je cite. Je ne l'ai pas vu. Hein. Donc je suis obligé de leur faire confiance. c'est... Non, non, ils ont refait le jeu à partir de rien complètement sur le nouveau moteur.
Super, quel bon investissement encore.
L'équipe a écouté votre feedback, nous avons appris beaucoup de la période d'open beta. Voilà.
Quelle bande d'arnaqueurs, c'est pas possible. Bon, et du coup, il y a plus de contenu ?
Le jeu sortira sur PlayStation 5, PS4, Xbox et PC, à la fois sur Steam et sur l'Epic Game Store. Ah oui, non, il était sorti à l'été 2022. Ah
non, non, ça fait longtemps.
Hein. Ouais, c'est au début 2023 qu'ils l'ont... Ouais, c'est début 2023 qu'ils l'avaient viré. On pense qu'il y aura des persos en plus, on n'a pas vraiment les détails, on sait qu'ils ont refait le jeu sur l'Unreal Engine 5, donc
mais
on n'est pas à l'abri qu'il y ait moins de persos qu'avant. Mais
Le problème, c'était pas de refaire le jeu, c'était de rajouter du contenu.
Bah, voilà.
C'est bizarre.
Très bizarre.
Pourquoi c'est toujours des abrutis qui prennent les décisions dans les entreprises ?
Parce que... La décision de les mettre à la tête de l'entreprise, c'était déjà une décision d'abruti. Donc tu vois, ça reste...
Oui, on reste entre abrutis, c'est bien.
Exactement. Okay. La prochaine news, de prime abord, n'a pas l'air d'être une news jeu vidéo, mais restez avec moi, on va y arriver. Tous ensemble, on va se tenir la main, on va arriver jusqu'au bout. TikTok
oui.
est en phase d'être banni aux États-Unis.
Oui.
Puisque vous le savez, TikTok, en plus d'être une application qui permet de voir des vidéos de filles à moitié à poil en train de danser et de chiens qui chantent,
c'est un
outil d'espionnage chinois, hein, bien connu,
qui va
aspirer votre âme et l'envoyer au Parti communiste chinois via une connexion spécialisée. En tout cas, c'est ce que...
C'est ce que pensent les partisans de Donald Trump.
Tout à fait. Et le gouvernement américain, hein, qui a voté et qui a dit que TikTok, les deux issues possibles pour TikTok, c'est soit d'être banni complètement aux États-Unis, soit de revendre leur activité pour le territoire des États-Unis à une entreprise américaine, bien américain. Voilà.
D'accord.
D'accord. Donc... Déjà, de base, on est sur des bases extrêmement cons. On va se hisser...
Bah, attends, aux États-Unis, ils ont... Je sais pas, il y a un plafond.
On va se hisser
ceux
sur
qui
ces
sont
bases
intelligents, ils les font sortir.
Extrêmement cons. Non, mais... Elle est horrible, cette blague, je peux pas la faire.
Vas-y, allez.
Je fais quand ils vont à l'école, ils les abattent. Qu'est-ce que tu veux faire ?
Ah, c'est vrai.
Donc, on va se hisser sur ces bases extrêmement cons. Donc, il faut quelqu'un pour racheter TikTok aux États-Unis.
Ah, bah,
et qui est-ce qui s'est présenté ?
Bah, Elon Musk. Ah non, j'ai ouais, pas j'ai
quelqu'un
pas, je sais
qui
pas.
A beaucoup d'argent.
Ouais.
Et beaucoup de temps libre en ce moment. Bobby Kotick.
Ah oui, oui, j'ai vu, ouais. Oui, oui, Bobby Kotick.
Bobby Kotick, c'est ce design. Il fait moi, j'ai des sous si vous voulez. Je peux racheter. Avec mes potes, hein, parce qu'il va monter un truc avec le créateur de OpenAI. Puisque s'il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est pas marrant. Hein, Sam Altman, le CEO de OpenAI.
Mais
voilà,
attends,
donc c'est une possibilité.
Attends, concrètement, les États-Unis peuvent obliger la Chine à vendre TikTok ?
Ouais.
Mais ça va pas ou quoi ? Tu t'es cru où ?
Ou alors, à
tu
pas
t'es
exercer...
pris pour les rois du monde ou...
Ou alors, l'alternative, c'est de ne pas exercer sur le territoire américain. Ils peuvent très bien, ouais, tout à fait. Tout à fait.
Non mais attends, je veux dire, quelle est la justification ?
Décision du gouvernement qui ressemble de moins en moins
à un gouvernement. Oui, mais je veux dire, pour l'instant, c'est les démocrates qui sont... Enfin, quoique le gouvernement, il est partagé. C'est qui choisit, là ? Le Sénat, l'Assemblée ?
Alors, tu me poses trop de questions.
Et voilà
sur... Non, non, mais là...
Non, tu n'es pas technique, toi.
Non, non, la semaine prochaine, on aura un invité, si tu veux, qui sera spécialiste dans le gouvernement américain.
De la politique américaine ?
Tout à fait. On
c'est
va
qui
inviter Donald Trump. Date de sortie confirmée
Donald
pour...
Trump et éventuellement en guest Vladimir Poutine.
Spécialiste du gouvernement
spécialiste
américain.
De la politique américaine. Bien plus que Donald Trump.
Et des représentants du Parti communiste chinois qui vont nous dire pourquoi ils aspirent les âmes des Américains.
Putain, vivement l'apocalypse hein, pour de bon.
On a une date de sortie pour Paper Mario, la porte millénaire, le remake.
Oui.
23 mai.
C'est bien.
C'est bien. On a une date de sortie.
Sera peut-être mort d'ici là, hein, vu comment ça se passe.
On a une date de sortie pour le remaster de Luigi's Mansion 2.
Ouais.
27 juin.
D'accord. On sera peut-être encore plus mort d'ici là parce que c'est loin.
On a une date de sortie pour. Non, mais c'est les news. Hein. On a une date de sortie pour le prochain film Super Mario.
J'aimerais bien qu'on soit arrivé en Haute-Savoie avant l'apocalypse quand même.
Le prochain film Super Mario sortira le 3 avril 2026. Très optimiste, monsieur Miyamoto. C'est. Posez vos congés. Hein.
Oh putain, non mais n'importe quoi.
Donc voilà, Nintendo et le studio d'animation Illumination ont confirmé conjointement qu'un nouveau film dans l'univers de Super Mario Bros. Sortira en 2026, hein, le 3 avril aux États-Unis.
Mais c'est précis quand même pour une date aussi lointaine.
Mais alors, dans le milieu du cinéma, ça se fait beaucoup.
Mais pourquoi ?
Ils prévoient les dates vachement à l'avance.
Mais ça marche ?
Ah, ils s'y tiennent la plupart du temps. Ouais, ouais. Alors parfois c'est repoussé parce que ben, tout est repoussé. Mais non, les dates, je me rappelle quand ils avaient annoncé les dates des 5 prochains Fast and Furious.
Ils ont.
Globalement, alors il y a eu une pandémie entre, tu vois, donc c'est pas forcément. Mais ouais.
Ils ont respecté les dates.
C'était. 3 avril 2026. Alors c'est marrant parce que ce film Mario, ce nouveau film Mario, ils ont fait un communiqué de presse, ils ont décrit le truc. À aucun moment ils te disent que c'est le film, c'est Super Mario Bros. Le film 2. Non, c'est un nouveau film dans l'univers de Super Mario.
Donc ils vont pas faire la même chose ?
Potentiellement, ils vont pas faire la même chose. D'accord. Potentiellement, ils vont faire un truc différent, peut-être centré autour d'autres personnages. Il y a des rumeurs d'un film Donkey Kong, il y a des rumeurs d'un film basé sur Yoshi.
Ouais, mais c'est plus Super Mario alors.
Ah, c'est des personnages de l'univers de Super Mario.
Putain, un film sur Yoshi.
Ah,
ça va pas beaucoup parler, hein.
Ah, ça va tirer de la langue, hein.
Chris Pratt, il va rigoler,
Pratt,
hein.
Chris Pratt, alors ça veut pas dire qu'il y aura pas Mario, tu vois, mais ça serait peut-être pas le centre du film.
C'est qui fait les bruits de Yoshi?
Jack Black. non, peut-être, hein.
Putain, j'en peux.
Non, Jack Black, il fait déjà Bowser.
Mais c'est pas possible.
Timothée Chalamet, dans le rôle de Yoshi. Ça va très bien.
C'est ça.
Darkman en direct nous dit Al Pacino.
C'est ça.
Il est un peu vieux, Al Pacino. Mais
bah justement, il grogne, c'est tout, ça suffit.
Un vieux Yoshi. Allez, un petit agenda des sorties parce que c'est pas possible, c'est news. Ouh, c'était court ça. Ça marche plus du tout, mon bouton. Mon bouton, il est pété.
Allez, appuie aussi, toi. Fais un effort.
La semaine dernière, il n'y a rien qui est sorti. J'espère que vous avez repris des forces et économisé de l'argent. Parce que cette semaine, aujourd'hui, lundi 18 mars, version PlayStation 5 de Hi-Fi Rush.
Oui.
Demain, mardi 19 mars, patch 1.6 de Stardew Valley.
Ah oui.
Alors ça, c'est gratuit en argent. C'est coûteux en temps.
C'est gratuit en argent.
Ah oui, les patchs de Stardew Valley, c'est gratuit. Hein.
Putain, mais il dépense pas beaucoup d'argent, ce monsieur.
Mais il en a
très économe.
Ouais.
Mais du coup, tu crois qu'il a un truc comme Picsou où il se roule dans ses pièces d'or ou...
Littéralement, ouais. Mercredi 20 mars, sur PC, PlayStation et Xbox, le reboot de Alone in the Dark.
Ah mais oui, je veux faire ça.
Je sais. Pour les amateurs de Survival Horror.
T'as demandé une clé ?
Jeudi 21 mars... La version PC de Horizon Forbidden West.
Oui.
Édition complète avec les Burning Shores en bonus. Mm-hmm. La version Xbox de Final Fantasy XIV.
Ah oui, c'est vrai.
Online. Mm-hmm. Et enfin, vendredi 22, sur Switch, Princess Peach Showtime.
Ah.
Sur PlayStation 5, Rise of the Ronin. Mm-hmm. Sur PC, sur Xbox et sur PlayStation 5, Dragon's Dogma 2.
Tout le même jour ?
Tout le même jour.
Peach, Ronin et
Dragon's Dogma. Tout le même jour.
Ah, plutôt jouer à Dragon's Dogma alors. Hein.
On va plutôt jouer à Stardew Valley.
À Stardew Valley, oui, c'est ça.
Voilà, donc il faut qu'on
s'y mette. Ah oui, non, là pour le coup, c'est une grosse semaine.
C'est une bonne semaine. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'après c'est bon.
Jusqu'à quand ?
jusqu'à grosso... Il y a quand même des trucs qui sortent, hein. Mais jusqu'à fin avril, on se relâche. Dernière semaine d'avril.
Mais ils ne peuvent pas faire un effort et
on commence à
échelonner un peu les
On trucs. Commence à sortir de, des bois.
Non, mais pourquoi ils ont tout sorti? Moi, je suis désolée, mais je trouve ça un peu con.
Le truc, c'est qu'ils ont tous
niveau marketing, de tous sortir en même temps, quoi. Je veux dire, tu peux attendre deux semaines de plus pour sortir ton jeu un peu plus que correctement, non?
Le problème, c'est que quand tu prévois une date de sortie pour un jeu, c'est pas une date. En fait, si tu veux, les gens, ils disent, ouais, ils ont prévu de sortir le jeu à telle date parce qu'ils pensent qu'ils auront fini le jeu à telle date. C'est pas comme ça que les studios raisonnent. On sort le jeu à telle date parce qu'on a fait les calculs, c'est à cette date-là qu'on n'a plus de sous, il faut que ça commence à rentrer.
Oui, et mais ouais. Tu peux attendre deux semaines sans bouffer, quoi.
Tu peux manger des coquillettes jusqu'à avril. Non, mais fais un effort, quoi.
Je sais pas, moi.
Merde, Naoki Yoshida, Final Fantasy XIV, attends un peu, c'est bon. Tu le laisses en devait à deux semaines de plus.
Non, mais FF14, ça va, c'est un vieux jeu, c'est pas un problème.
Alone
mais...
in the Dark devait sortir en novembre de l'année dernière.
Ouais.
Ils ont dit on le repousse à mars parce qu'il y a trop de jeux.
Ouais, c'est pire.
Ouais, voilà, ils sont bien fait avoir. Voilà, c'est tout. Bah écoutez.
Bon, ben bah, allez. Hein.
Il est temps d'aller travailler à l'usine pour payer tous ces jeux.
Tout à fait.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On vous souhaite une excellente et une incroyable semaine. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour plein de nouvelles aventures. Des bisous à tous. Merci Aza, merci tout le monde. Et à bientôt.
Salut.